RCF.
Frère Philippe Haine, on continue à se pencher sur ce que vous appelez le fanatisme des premiers chrétiens et sur la réaction de l'Église face à ces comportements exaltés parfois jusqu'à la mort. Et dans les premiers siècles, la foi chrétienne a poussé les croyants à chercher une véritable ascèse, jusqu'où l'exaltation de la transcendance et de la dimension spirituelle a pu conduire à négliger le corps et la matière.
Ça, c'est la grande question, parce que qu'est-ce qu'on apprend à un enfant ? On apprend à un enfant à se maîtriser. C'est pas parce qu'un enfant a faim qu'il doit se jeter sur l'étalage de fruits et de légumes ou bien dévorer toute la table de chocolat. On apprend à un enfant à maîtriser sa faim physique. De la même façon, on apprend aux adolescents et aux adultes à maîtriser d'autres appétits qu'ils peuvent ressentir. Il faut être maître un petit peu de son corps. Mais alors, il y a des dérapages qui se font dans toutes les religions, partout dans le monde, qui se font ainsi à travers toutes les époques, où des hommes vont jusqu'à presque détruire leur propre corps, soi-disant pour pouvoir en être maître, en tout cas pour pouvoir effacer, détruire toutes les pulsions qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, visiblement, on se trouve en contradiction avec la chose la plus simple, la première page de la Bible. Dieu créa l'homme et la femme et trouva que c'était beau.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ça veut dire que vouloir détruire son corps, c'est aller contre le message de Dieu lui-même. La création est belle, c'est à nous à lui permettre d'être transfiguré par le véritable amour qu'il y a à l'intérieur de lui.
Mais est-ce que les premiers chrétiens n'interprètent pas cette action de Jésus qui lui-même, pendant 40 jours, va aller dans le désert, va jeûner ? Est-ce que c'est pas ça qu'ils ont cherché à suivre ?
Ah, sans doute, c'est certain, mais c'est pas Jésus qui a voulu détruire son corps. S'il l'a fait, c'est que visiblement, il y avait un besoin d'une certaine détachement.
C'est le sens alors qu'on donne à ça.
C'est ça. Le problème, c'est le sens qu'on va donner. Jésus a voulu pratiquer le jeûne ou la prière simplement pour pouvoir retrouver l'essentiel de sa propre vie, d'une certaine manière. À l'inverse, s'il y a des gens qui veulent se détruire eux-mêmes, etc., ça devient véritablement pervers. Et ça, malheureusement, on en a toujours un peu.
Jésus le dit, ce qui compte, c'est la conversion. Mmh. C'est pas le comportement extérieur, c'est pas l'apparence qu'on va chercher à avoir ou peut-être l'objectif qui serait ascétique, justement.
Ce n'est pas les sacrifices que je veux, c'est la miséricorde. C'est ça qui est important dans tous les exercices que l'on peut faire, dans l'obéissance même qu'on a à l'intérieur du couvent, si cela ne me permet pas d'être plus accueillant, plus miséricordieux vis-à-vis de l'autre, ça ne sert à rien. Si je deviens comme un petit caporal prussien, sévère pour le plus petit détail de la règle, etc., et que finalement j'étouffe, j'écrase, j'utilise mon pouvoir pour bien étouffer ainsi mon voisin, en disant « faut faire ceci comme ça », etc., ça ne sert à rien. C'est être libéré de son égoïsme pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir aimer.
À quoi va ressembler l'abstinence et la continence de ces premiers chrétiens ? Sur quels objets vont porter les restrictions ?
Il y en a toutes les formes. Une forme qui a été fortement répandue dès le début, on le voit, c'est le jeûne deux fois par semaine, qui est accepté tout à fait de manière universelle, sans aucun problème. Donc c'est le mercredi et le vendredi chez les chrétiens. Mais non, spontanément, dans beaucoup de religions, on pratiquait le jeûne de manière très spontanée, sans poser de problème. Mais évidemment, il y avait parfois des championnats de jeûne qui se faisaient entre les moines, surtout les moines du désert en Égypte et en Syrie. On se disait, wow, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 40 semaines, je me suis flagellé 50 fois aujourd'hui. Non, moi j'ai fait 60 fois.
Des mortifications.
Et finalement, ça venait presque en concours. Ils en tellement en concours qu'on disait que ça devient absurde. Il y en a même qui ont inventé ceci. Ils ont décidé de s'installer dans les arbres. Ce qu'on appelle les dendrites. Dendrites du grec dendron, qui veut dire l'arbre. Ils s'installaient. Mais seulement, vous savez, parfois, il y a le vent qui souffle. Et parfois, on s'endort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens tombaient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont commencé à se lier avec des cordes. Il y en a un qui s'est retrouvé comme ça pendu pendant un jour ou deux, etc. Et c'est les gens du voisinage, en passant, voyant comme ça pendre un moine à son arbre, qui s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis tombé. Il l'a remis, etc. Et puis, il a continué à vivre là-haut, là-dessus.
Il y a aussi eu les stationnaires. Alors, ça, c'est curieux, ces personnes.
Les stationnaires sont ceux qui restent pendant toute la nuit debout pour prier Dieu. Il y en a qui pouvaient le faire pendant une semaine, d'autres qui faisaient pendant une nuit seulement, ainsi de suite. Alors parfois, il y avait des championnats. Et ainsi donc, il y avait deux jeunes moines qui étaient pleins d'admiration pour un vieux moine qui restait ainsi debout toute la nuit. Ils ont essayé de le faire pendant une heure ou deux, puis ils ont eu marre, ils sont partis. Par contre, ensuite, il y a ce qu'on appelle les stélites. Stélites, c'est ce qu'on a, ça vient du grec stélos, qui veut dire la colonne. Donc le péristyle, c'est un endroit qui est entouré de colonnes. Et les stélites sont des gens qui vivent sur une colonne. Et une colonne, c'est pas très large, ça fait 75 cm de long, 75 cm de large. Ils peuvent juste se tenir debout, et ils restent ainsi tout le temps debout, du matin jusqu'au soir, l'été et l'hiver, pendant des années et des années. Et on arrive à des situations pénibles, c'est comme Daniel le stylite, que tout le monde connaît, évidemment, au 8e siècle, où on a dû le faire descendre de sa colonne pour pouvoir arranger un coup d'état militaire qui s'était fait à Constantinople. Mais il a fallu le porter. Parce que quand on est debout tout le temps, il y a un problème de circulation. Qui dit mauvaise circulation dit putréfaction. Ce qui fait qu'il avait les pieds qui étaient pourris, vraiment gangrénés. Et donc, il a fallu le sortir, mettre des bandes, un peu de déodorant, j'imagine, etc., pour pouvoir le déplacer. Non, c'est pas très sain. Comme
Mais pourtant, ces croyants, ils étaient de bonne foi parce qu'ils s'appuyaient sur cette phrase de Jésus qui dit « priez sans cesse ».
Ah, c'est une très bonne question, ça. Prier sans cesse. Il y a même une congrégation religieuse à Constantinople qui était créée ainsi. Il se réveillait toutes les heures pour prier, parce qu'il fallait prier toutes les heures. Donc, il pouvait dormir que 45 minutes, ainsi de suite. Mais c'est intenable au point de vue physique, etc. Encore une fois, quand on fait la vaisselle, ou bien quand je suis avec vous, ou bien quand je travaille même à ma table de travail, ça peut être une forme de prière. C'est pour ça qu'il est tellement important qu'on rentre dans une pièce. Quand on commence un travail, de faire un signe de croix, de dire une petite prière, n'importe quoi. Et on se met simplement dans l'ambiance, dans la présence.
Les sidérophores, vous ne m'en parlez pas, ceux qui portaient ces grosses chaînes.
Portaient de grosses chaînes, tellement lourdes qu'ils ne pouvaient pas les soulever. Il y en a même
Mais c'était pour l'amour de Dieu qu'ils faisaient ça.
En tout cas, pour se maîtriser, pour se faire du mal. C'est une façon de voir. Vous savez, parfois, il y a des femmes, des mères de famille qui, comment dirais-je, qui se rendent la vie impossible par amour pour leur enfant. Parfois, il y a des femmes qui préparent tellement bien le repas qu'elles sont fatiguées, énervées, qu'elles crient, qu'elles hurlent, et l'ambiance du repas est ratée. Pourtant, le repas est excellent. C'est difficile de faire la part des choses. Comme moi, je ne fais pas la cuisine.
En tout cas, vous, votre habitat est certainement moins hostile que celui que se donnaient ces premiers chrétiens. En tout cas, certains, sûrement à la marge, mais malgré tout, certains vivaient leur foi et pensaient être tout à fait dans le bon chemin.
Oui, mais enfin, bon, il y a par exemple des gens qui se sont enfermés dans les citernes. C'est quoi des citernes ? Ce sont des trous dans le rocher pour garder l'eau fraîche, ainsi de suite. Et donc, ils s'y installaient pendant quelques semaines ou quelques mois. Il y en a même qui choisissaient donc les citernes d'été, la citerne d'hiver, suivant la hauteur d'où ça se trouvait, de façon à avoir plus ou moins froid que ces gens encore. Il y en a par exemple un moine en désert d'Égypte qui lui avait trois fouets. Il y avait le fouet de semaine, il y avait le fouet de dimanche, et puis le fouet pour les copains. Ça, si jamais quelqu'un passait, il pouvait le fouetter. Je ne me souviens pas que Jésus ait dit qu'il fallait se fouetter.
Alors tout cela, c'était pour parvenir à une maîtrise de soi. Est-ce que l'Église a encouragé cela et comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a vu ces chrétiens exaltés qui pensaient véritablement suivre le Christ encore une fois ?
Alors ce qui est intéressant justement, c'est qu'en Égypte et en Syrie d'abord, il y a donc ce qu'on appelle les périodes. Les périodes, péri, ça veut dire autour, et ode, ça veut dire le chemin. Donc ce sont, si vous voulez, des chanoines ou des prêtres envoyés par l'évêque qui faisaient le tour des communautés chrétiennes pour voir si on n'exagérait pas. Et lorsqu'on a eu Siméon, par exemple, Siméon le stylite, c'est lui qui, le premier, était un moine qui a d'abord vécu dans une caverne, puis il a vécu autour d'une pierre avec une chaîne tout autour. C'est comme une chèvre, d'ailleurs c'est le mandra, ça existait. Puis finalement, il a dressé une colonne. Le clergé est opposé à ça. Il y a eu même des moines d'Égypte qui ont été le voir là-bas en Syrie. On lui dit « Descends, descends tout de suite, tu n'as rien à faire là-haut. » Il dit « Ah, s'il faut descendre, je descends. » Et rien que le fait que par humilité, par obéissance, il est voulu descendre, ces moines se sont dit, tu vois, il ne le fait pas ça par orgueil personnel. Il accepte que l'obéissance est plus importante encore que le renom, la possibilité ou la publicité qu'il pourra avoir par sa manière de vivre, etc. Non, il y a eu très, en général, il ne faut pas avoir peur, l'Église en tant qu'institution est assez méfiante vis-à-vis un petit peu de ces exaltations. Parce que d'une part, c'est contre le message de Dieu, du respect du corps et de la création. Et deuxièmement aussi, ça risque de créer une élite. Une espèce de caste spéciale. Nous, on est plus chrétiens que toi. Moi, je suis plus fort que toi parce que je me flagelle, patati patata. Et ça, on déteste dans l'Église en général. On est ensemble et ensemble, nous progressons dans le peuple de Dieu.
Alors comment est-ce qu'on pourrait comprendre aujourd'hui cette ascèse, l'abstinence, la continence, le fait d'essayer de maîtriser un petit peu ses comportements? Quelle est la limite justement à se poser? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'aujourd'hui on doit rechercher une forme d'ascèse et laquelle?
Alors c'est intéressant parce que c'est incompréhensible pour maintenant. Depuis 50 ans, on a libéré le corps. Il y a 50 ans ou 100 ans, les femmes portaient des corsets. Il fallait bien les serrer pour avoir la taille guêpe. Il fallait souffrir pour être belle, ainsi de suite. Et les hommes portaient des cols empessés ou bien des chemises très étouffantes, que sais-je encore. Il fallait avoir des canons de vestimentaires qui étaient stricts. Le corps devait être soumis, c'était secondaire. Mais depuis une cinquantaine d'années à peu près, hein, c'est le corps, on connaît au corps le droit d'avoir ses aises, et c'est très bien.
Alors ça, c'est vestimentaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne s'applique pas des ascèses alimentaires?
Encore, c'est toujours la même chose. Si on le fait simplement pour... Il y a des gens qui suivent des régimes et qui deviennent tellement obsédés par le régime qu'ils ne vivent que pour ça. Et ils oublient même parfois de dire bonjour à leurs voisins, etc., en disant 542 grammes de ceci ou cela. Ça devient un peu compliqué. Il y a des gens qui sont tellement obsédés par leur apparence extérieure qu'ils en oublient simplement à se lever la nuit pour rendre service à quelqu'un, de pouvoir travailler, d'accepter d'avoir les mains sales ou même de la poussière sur le visage, et ainsi de suite. La question de savoir à quoi, pourquoi nous le faisons. Si c'est pour être, comment dirais-je, pour construire encore une fois une communauté véritablement de miséricorde et d'amour, ça, c'est bien, mais si c'est vraiment pour, simplement pour se faire remarquer, que sais-je encore, ou bien être plus hygiénique que les autres. Le corps n'est jamais qu'un outil aussi.
Merci, frère Philippe Haine. Vous êtes religieux dominicain. Vous avez rejoint votre communauté ici à Liège et vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « L'Église face au fanatisme, l'exemple des premiers chrétiens » aux éditions Salvator. Merci.